Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous conduire à la découverte d'une parution récente, particulièrement originale, à la frontière de la philosophie et des sciences de gestion. Il s'agit d'Aristote, leçon pour redonner du sens à l'entreprise et au travail, par Bernard Girard. Un ouvrage qui vient de paraître chez Maxima Laurent Duménil, de 263 pages, 18,50 €. Monsieur le professeur Bernard Girard, bonjour. Heureux de vous retrouver donc sur notre antenne. Alors, comment expliquer les comportements absurdes des dirigeants qui ont conduit le monde au bord de l'implosion lors de la dernière crise financière et économique mondiale de 2007 ? Nombre d'économistes ont tenté de cerner les déterminants de ces dérapages de la planète finance, mais bien peu se sont engagés sur la recherche des racines morales de cette crise. Aussi, votre grand mérite, monsieur le professeur Bernard Girard, c'est de proposer cette thèse très originale, s'appuyant sur la redécouverte des traités éthiques du grand philosophe grec de l'Antiquité, Aristote, et d'en tirer quelques leçons sur lesquelles nous allons revenir. En effet, pour vous, les apports d'Aristote sont autant d'outils d'analyse critique des méthodes modernes de gestion et de leur finalité. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais rappeler quelques éléments de votre parcours que vous pourrez sans doute compléter. Vous êtes donc docteur en philosophie, consultant en management, et vous avez été donc l'auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le management, et notamment un best-seller, semble-t-il, Google, une révolution dans le management. Best-seller qui a été traduit dans 9 langues. Et vous êtes chercheur associé à l'UQAM, c'est-à-dire
à l'Université de Québec.
À Montréal, voilà. Est-ce que j'ai été à peu près...
Vous avez été tout à fait...
Complet.
Je peux simplement ajouter que j'ai écrit plusieurs livres sur les théories du management, notamment une histoire des théories du management en France du début de la révolution industrielle, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui m'a permis de voir un petit peu quelles étaient les racines à la fois économiques et éventuellement philosophiques du management et des méthodes de management. Ce qui explique que lorsque, en 2008, la crise a éclaté, et que Alan Greenspan, qui était alors, vous savez, le gouverneur de la Fed, la Banque fédérale américaine, a expliqué de manière un petit peu, enfin qui a été beaucoup critiqué, a dit il y a une dimension morale, ces agents économiques, tous ces financiers, tous ces banquiers sont aussi cupides, leur cupidité a contribué à la crise. Lorsque donc il a déclaré ça, tout le monde s'est un petit peu moqué de lui en disant bon, qu'est-ce que c'est sa politique qui est responsable, ce qui était véritablement vrai. Pour l'essentiel vrai, mais en même temps, il y avait une dimension morale qui, du coup, a été mise de côté, négligée. Et je me suis dit, mais n'oublions quand même pas cette dimension morale, parce que s'il est vrai qu'il y a toujours des agents économiques qui exagèrent, il y a des escrocs, il y a des voleurs, il y a des gens qui se comportent mal, mais là, cette fois-ci, il y en a eu quand même énormément. Quand on regarde l'actualité depuis 4-5 ans, le nombre de grandes entreprises qui sont confrontées à des problèmes éthiques et moraux gravissimes, qui peuvent aller jusqu'à leur disparition pure et simple, est quand même considérable. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et étant de formation philosophe, je me suis dit, mais je vais aller voir du côté des philosophes.
Voilà. Alors, pourquoi Aristote ? C'est la première question.
Alors, pourquoi Aristote ? Parce que, si vous voulez, mon premier réflexe était d'aller du côté de Kant. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai plus lu Kant que d'autres philosophes. Et vous savez que Kant, c'est la déontologie, il y a le devoir, il y a ce qu'il appelle les impératifs catégoriques. Et je me suis dit, ça c'est très fort, très très bien, c'est formidable, mais ça n'explique absolument pas les comportements. Alors je suis allé voir du côté des adversaires de Kant, ce qu'on appelle un petit peu les conséquentialistes, des gens comme John Stuart Mill ou comme Jeremy Bentham, ou plus près de nous comme Nozick, un philosophe américain qui est un peu le père de l'ultralibéralisme. Et là, ce sont des gens qui expliquent qu'au fond, est bonne une action dont les conséquences sont bonnes. Bon, c'est très bien, sauf qu'on découvre que là non plus, ça n'explique pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, mais qui peut nous donner des éléments pour essayer de comprendre. Et ben, je suis retombé
sur ce chemin.
J'ai retrouvé plutôt Aristote qui propose une approche qu'on pourrait dire, pour simplifier et pour utiliser un vocabulaire contemporain, psychosociologique de nos comportements moraux.
Alors votre approche, votre thèse donc, que vous actualisez, repose sur deux considérants majeurs, mais il y en a d'autres que vous allez développer. Les entreprises ne sont pas de simples substituts du marché, point 1. Et point 2, l'homme reste avant tout un animal politique, en recherche d'amitié au sens de sens, enfin de lien social, que l'agent rationnel égoïste est occupé exclusivement à la défense de ses intérêts.
C'est voilà, un petit peu ça, c'est une question centrale, si vous voulez. L'idée centrale d'Aristote, c'est que l'homme est un animal politique. Et toute sa philosophie politique, hein, puisqu'il a traité, vous faisiez allusion tout à l'heure à ses traités d'éthique, hein, l'éthique à Nicomaque notamment et celle à Eudème, enfin il a aussi écrit des traités politiques, toute sa réflexion politique consiste à dire nous sommes des animaux politiques et notre fonction principale est une fonction politique. Mais à travers cela, si vous voulez, il y a toute une réflexion sur... Qui dit politique, dit police, dit cité, dit contact, lien avec les autres. Il y a toute une réflexion sur ce qui nous anime. Et Aristote nous dit, nous sommes à la fois des agents, des individus égoïstes, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas à nous décrire. Nous avons aussi besoin des autres, du lien avec les autres. Et nous sommes en permanence en train d'arbitrer entre nos préférences personnelles, notre intérêt personnel, et puis le fait que nous avons besoin d'entretenir... ce qu'il appelle de l'amitié, mais d'entretenir un lien avec autrui, avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel des méthodes de management contemporaines sont basées sur le modèle économique qui consiste à dire que nous sommes des agents égoïstes, nous poursuivons exclusivement notre intérêt personnel. Et malheureusement, cela ne correspond
absolument pas,
à la réalité.
Complètement.
Oui, absolument pas à la réalité complète. Et quand on examine avec les yeux d'Aristote ou avec les lunettes que nous prête Aristote la réalité, on comprend bien des phénomènes qui autrement nous échappent.
Tout à fait. Alors donc, vous en tirez deux enseignements majeurs, si je puis dire. Il y en a d'autres, hein, on y reviendra. La première, c'est une conclusion logique à partir de l'approche que vous reprenez d'Aristote, c'est au niveau des incitations de toute nature, c'est-à-dire pour conduire les hommes, les salariés dans un sens... où l'entreprise le souhaite, notamment au niveau des politiques salariales,
sûr,
des incitations
bien
notamment
bien
monétaires. Bien. Et un deuxième point sur lequel on pourra revenir, c'est au niveau de l'enseignement, sur les effets pervers de l'enseignement, notamment des MBA. Alors j'imagine qu'on va faire dresser les cheveux à un certain nombre de nos auditeurs, mais vous allez vous en expliquer. Alors, premier point sur les incitations.
Oui, alors, si on reprend la thèse classique, nous sommes des agents économiques égoïstes, attachés uniquement à la poursuite de notre intérêt personnel, il faut concevoir des politiques salariales qui associe, lie rémunération et performance. C'est ce qui s'appelle bonus, prime, rémunération selon toute la logique du management, hein, les points Bedeau dans les années 30. Enfin, toute cette logique de la rémunération basée sur les performances est construite autour de ce modèle. Et depuis très longtemps, on sait que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, qu'il ne suffit pas de promettre des bonus ou des primes pour obtenir des salariés qu'ils... fasse un maximum d'efforts. Et on sait qu'il y a d'autres mécanismes psychologiques ou psychosociologiques qui entrent en ligne de compte. Et Aristote nous permet de... La lecture d'Aristote nous permet de comprendre que certains de ces mécanismes sont liés tout simplement au fait que nous avons besoin de vivre dans un milieu dans lequel l'opinion des autres compte pour nous. L'opinion des autres compte pour nous. Nous avons besoin que les autres nous disent « Mais tu es formidable, ce que tu fais, c'est vraiment très très bien. » Et ça, ça ne coûte pas d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer les gens, hein, parce qu'il faudrait éviter de prendre les choses à l'envers. Mais si vous voulez, toute cette dimension sociale...
Alors
ça s'appelle la reconnaissance chez Axel Honneth, par exemple. Chez Aristote, ça n'est pas seulement ça, mais c'est bien sûr, on est très proche de la reconnaissance d'Axel Honneth. Et toute cette dimension-là, qui est négligée aujourd'hui dans le management contemporain et dans ses logiques les plus avancées, est, nous dit Aristote, capitale. Si on veut qu'un groupe fonctionne correctement, il faut... que les individus soient heureux ensemble, et on est heureux si on s'admire mutuellement, pour simplifier. Je simplifie naturellement énormément, mais si vous voulez, on éprouve du plaisir à être ensemble parce qu'on tire mutuellement bénéfice l'un de l'autre. Et il y a, vous parliez d'un enseignement et j'y viendrai dans deux secondes, mais il y a dans un de ses textes un passage absolument formidable dans lequel il parle de la relation entre l'élève et l'enseignant. Et il dit, dans une bonne relation élève-enseignant, l'élève profite évidemment du savoir de l'enseignant, mais l'enseignant profite aussi. Des questions, du questionnement, des interrogations de l'élève. Et une bonne relation est une relation mutuellement...
Gagnant-gagnant,
mutuellement profitable.
Alors, je reviens sur le deuxième aspect. Si les hommes, si les dirigeants en particulier, se comportent de la façon, on va dire, répréhensible qu'on a connue dans les dernières années, notamment cette période de crise... C'est aussi parce que, dites-vous, ils sont formatés, la plupart d'entre eux, par les célèbres MBA.
Voilà.
Et alors, pourquoi, comment ?
Alors voilà, alors, si vous voulez, il y a chez Aristote un concept, alors je vais faire un petit peu le savant, si vous voulez.
Mais non, mais faites-le, ça sera avec plaisir de l'auditeur.
En grec, on dit exis, alors on l'a traduit en latin par habitus. Et c'est un mot habitus, pour ceux qui ont fait un peu de sociologie, qui évoque immédiatement Bourdieu. Bon, or, Bourdieu a repris le concept d'Aristote. Et pour Aristote, l'habitus, nos comportements éthiques, nos comportements moraux, tiennent à deux choses. Tiennent d'une part aux habitudes que nous prenons. Nous prenons l'habitude de,
faire
telle ou telle chose. Et plus nous prenons cette habitude, plus nous avons tendance à le faire naturellement. Et puis, il y a un autre aspect, un autre élément qui contribue à notre formation de nos comportements, c'est l'enseignement. Et Aristote nous dit, si on se comporte mal, c'est parce que d'une part, on est dans un milieu qui nous incite ou favorise ou tolère des comportements qui ne sont pas éthiquement satisfaisants, et de l'autre, c'est parce que nous avons reçu ou nous recevons une formation qui nous incite à avoir des comportements qui ne sont pas satisfaisants. Et il se trouve que beaucoup de nos dirigeants ont effectivement été formés, alors vous parliez des MBA
oui,
ou des écoles de commerce,
voilà,
absolument,
voilà, ça,
qui a été, enseignement qui a été très violemment critiqué il y a 2 ou 3 ans, ou 4 ans peut-être maintenant, par Mintzberg, un des grands noms du management, justement pour ce motif-là. Donc c'est très amusant, étrange et éclairant de retrouver ce que nous disait au IVe siècle avant Jésus-Christ Aristote sur les comportements moraux et retrouver en 2000 un des grands noms du management international, retrouver la même idée, si vous voulez. Du reste, d'ailleurs, je cite dans le livre un certain nombre de sondages réalisés aux États-Unis qui sont véritablement très, très inquiétants, où l'on découvre, par exemple, que pour des étudiants qui sortent du MBA, une majorité d'entre eux, le premier critère d'un manager, c'est la satisfaction des actionnaires. Et que la satisfaction des clients mais vient loin, 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 loin derrière, que le respect de la loi est quasiment inexistant. Donc on a vraiment une échelle des valeurs qui n'est pas naturelle. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils le deviennent avec l'enseignement qu'ils reçoivent.
C'est comme ça qu'on a expliqué les REE à 15% pour tout le monde et tout le temps.
Enfin, voilà, bon,
c'est la même logique, donc c'est impossible.
C'est cette logique-là, et comme c'est parfaitement impossible, on ne peut que créer des situations catastrophiques. Et d'ailleurs, Aristote, dans ses analyses de nos comportements, fait une distinction entre différents types de comportements. Nous pouvons être continents, incontinents, tempérants ou intempérants.
Oui.
Et il nous montre comment...
Alors, incontinent au sens...
au sens philosophique, oui, au sens philosophique. Qui est d'ailleurs un sens tout à fait intéressant.
C'est la faiblesse de la volonté, en quelque sorte.
C'est la faiblesse de la volonté. C'est le fait, si vous voulez, que... Mais nous connaissons tout ça.
Oui.
On fait quelque chose, nous savons qu'on ne devrait pas le faire.
Vous avez...
Et nous le faisons quand même. Je sais pas, on a tous des exemples comme ça. Hein. On
diabétique.
Fait quelque chose, on sait qu'on ne le fait pas, qu'il ne faudrait pas le faire, et puis on le fait quand même. Ça, c'est l'incontinence. L'incontinence, c'est au contraire, quand on fait quelque chose, on n'a pas envie de le faire, on le fait parce qu'on se dit, il faut quand même que je le fasse. On peut illustrer ça de 1000 manières.
Alors, vous dites que les hommes, les dirigeants, ont basculé de l'incontinence à l'intempérance.
Alors, l'intempérance, c'est quand on fait mal, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, sans même se rendre compte, je fais mal. Si vous voulez. Il y a une différence entre, bon, je ne sais pas, je vais prendre l'argent dans votre poche, mais en même temps, je suis quand même nul, et puis je vais le prendre naturellement sans faire attention. Vous voyez.
Donc, en considérant simplement mon simple plaisir, en disant, ben, moi, ça me fait plaisir,
voilà.
Le reste,
voilà,
peu importe.
Voilà.
Hein. D'accord. Alors, justement, sur ce terrain-là, si j'ai bien compris, Aristote est un des premiers grands philosophes qui s'est intéressé au juste prix.
Tout à fait.
Alors, je crois que Platon aussi, mais Aristote surtout.
Oui, mais
surtout,
c'est surtout juste, parce que
c'est surtout Aristote.
Aristote a une approche économique, une véritable... C'est la première théorie monétaire, c'est le premier théoricien des salaires. Alors, évidemment, comparé à ce que l'on écrit aujourd'hui,
ce sont des clés tout de même.
Oui.
Alors, justement, le juste prix, c'est quoi le juste prix? C'est le talent, c'est l'expérience ou c'est le contrat?
Alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, cette notion de juste prix, d'abord... Quand on regarde son histoire, ça vient d'Aristote, c'est repris par Thomas d'Aquin et c'est repris par la tradition catholique. Donc il y a toute une tradition de l'économie sociale, disons de l'Église, qui parle du juste prix. Et quand à côté de cela, on regarde les économistes, la science économique, si vous voulez, Pour eux, la notion de juste prix n'existe quasiment pas, sinon peut-être la transaction qui a lieu entre deux individus libres et satisfaits de la transaction. Donc là, le prix est juste lorsque nous entrons en transaction. Donc, pour les économistes, la question ne se pose pas. Sauf que, on voit bien, dans le monde des entreprises, dans le monde du travail, et ce qui se passe actuellement avec les retraites l'illustre bien, c'est que derrière le calcul économique que nous sommes tous capables de faire avec plus ou moins d'adresse ou d'habileté, il y a le sentiment de la justice. Et si aujourd'hui, il y a eu tant de gens qui ont manifesté contre la réforme des retraites, ce n'est pas du tout parce qu'ils se sont dit le gouvernement a mal compté ou a compté de manière maladroite. Non, c'est parce qu'ils ont le sentiment que cette réforme était injuste. Et dans le monde du travail, lorsqu'il y a des difficultés, bien souvent, lorsque l'on interroge les acteurs, ils répondent « mais c'est injuste ». C'est ce sentiment de justice ou d'injustice qui pose problème. Et bien sûr, d'abord, dans la question salariale. Vous avez, je crois, une longue carrière en entreprise. Moi, combien de fois ai-je vu en entreprise, vous savez, au moment où on décide des primes, au moment où on décide des augmentations de salaire, la colère, l'exaspération de ceux qui se sentaient traités injustement, même si on pouvait se dire, bon, après tout, ce n'est qu'une affaire de quelques dizaines ou centaines d'euros, vu les rémunérations qu'ils ont par ailleurs, ça n'est quasiment rien. Mais c'était ce sentiment d'injustice qui les touchait fortement. Et justement, toute cette réflexion sur le juste prix ou la juste rémunération nous permet à la fois de comprendre les mouvements sociaux et nous permet aussi de comprendre probablement l'explosion des inégalités qui frappent depuis une quinzaine d'années et qui sont, je crois, pour beaucoup liées au fait que les critères de calcul des rémunérations ont changé.
Se sont externalisés.
Se sont externalisés. Alors qu'autrefois, quand on prenait un directeur informatique, par exemple, on calculait son salaire en fonction de celui de ses collaborateurs, en fonction de celui de sa hiérarchie, en fonction de celui de ses collègues. Donc, c'était à l'intérieur du milieu de l'entreprise et on faisait en sorte qu'il y ait une sorte d'échelle correspondant à l'échelle des hiérarchies, des mérites, de l'ancienneté, enfin, quelque chose que tout le monde pouvait partager. Et puis, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, à l'inverse, aujourd'hui, on va calculer sa rémunération en fonction des prix du, ce qu'on appelle les prix du marché, même là où il n'y a pas forcément de marché, c'est-à-dire des rémunérations versées à l'extérieur de l'entreprise.
Dans un périmètre qui n'est plus la référence.
Qui n'est plus la référence des autres salariés, d'où ce sentiment d'injustice, d'où également ces explosions salariales, puisqu'on découvre que ça tire vers le bas les salaires les plus faibles, parce que si vous prenez le salaire d'une femme de ménage dans une entreprise, on trouvera naturellement dans les sociétés spécialisées dans le nettoyage des gens qui sont moins bien payés. Donc on aura tendance à tirer vers le bas son salaire. Et à l'inverse, quand on regarde vers les dirigeants, on va regarder non pas ceux qui sont moins bien payés, mais plutôt ceux qui sont mieux payés. Et ça va tirer vers le haut leur salaire, d'où explosion des inégalités. Et je cite dans le livre des études réalisées par des économistes géographes américains qui ont comparé les salaires des dirigeants en fonction des zones, non pas de chalandise, mais des zones dans lesquelles ils intervenaient. Et là où il y a de grandes entreprises qui paient très très bien, les salaires des patrons des PME montent beaucoup plus vite que là où il n'y a que des PME où les salaires restent, sont plus faibles. Donc c'est assez amusant. Mais pour le salarié qui se retrouve avec...
Ça l'est beaucoup moins.
Ça l'est beaucoup moins, voilà, absolument.
Oui, effectivement, c'est comme ça qu'on explique avec les conséquences sur des éléments accessoires de ces rémunérations qui déjà ont complètement explosé, notamment sur les retraites chapeaux dont l'opinion jette l'anathème, et en particulier sur les retraites chapeaux dorées qui ont suivi la logique. Alors, autre question. Oui, est-ce que parmi les leçons que vous avez donc retenues et que vous décrivez parfaitement dans votre ouvrage, il y en a 6 si je me souviens bien, quelle est celle qui vous paraît la plus, ou les deux qui vous paraissent les plus importantes, si vous aviez un jeune dirigeant qui vienne de vous dire « Dites-moi ce qui est important dans le management », vous lui direz quoi ?
Il y a plusieurs choses. Alors, autour de tout ce dont nous avons parlé,
bien
autour
sûr,
des incitations, dans tout ça, bien sûr. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à tirer d'Aristote du côté de l'art du commandement, de l'art de la gestion du changement, par exemple. Quand il nous dit « nous sommes tous des animaux politiques », il veut nous dire qu'il faut probablement nous traiter comme des animaux politiques, surtout lorsque l'on veut changer quelque chose. Vous savez aussi bien que moi, mieux que moi peut-être, combien la conduite du changement est un thème récurrent dans le monde des entreprises. Et vous savez aussi bien que moi, enfin moi je sais d'expérience pour m'y être souvent confronté, combien non seulement c'est difficile, mais combien on échoue souvent. Le nombre d'échecs est absolument considérable. Je crois qu'il y a plus d'échecs que de réussites. Et bien souvent, je crois que cela tient à ce que ceux qui construisent la réforme qui construisent, qui imaginent le changement, le font de manière presque exclusivement rationnelle, si vous voulez, sans penser qu'ils ont en face d'eux des agents ou des gens, des acteurs, qui ont, peuvent avoir de bonnes raisons, non pas de résister, comme on dit, mais enfin de trouver que leurs intérêts ne sont pas
dans ce sens.
Ne sont pas dans ce sens. Et il y a là une démarche politique, au sens propre politique, et je parle dans le livre, à un moment, de mouiller sa chemise. Les dirigeants devraient mouiller leur chemise.
Oui, convaincre,
aller sur le terrain, essayer aussi de comprendre les oppositions, parce que bien souvent, les oppositions sont pertinentes. Et on s'aperçoit, lorsque ça passe à travers des négociations avec les organisations syndicales, que les directions qui étaient si assurées de leur bon droit, de la justesse de leurs analyses, ben, reviennent dessus quand l'opposition est trop forte. Peut-être aurait-il mieux valu
le faire en amont.
Donc là, il y a toute une dimension politique qui est, je crois, malheureusement, trop souvent négligée par les dirigeants. Ça, c'est une leçon à tirer, je crois, de la lecture d'Aristote.
Alors, vous dites deux autres choses qui me paraissent extrêmement importantes pour les dirigeants. Premièrement, c'est que la rationalité, quelquefois, elle trébuche. Tout n'est pas rationnel. Ce que disait Aristote, le sujet maître de lui-même est très exactement celui qui sait s'en tenir à son raisonnement, tandis que l'incontinent est celui qui incline à oublier son raisonnement. Donc, ça ouvre un certain nombre de choses. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous soulignez aussi ce qui est du domaine de la modestie sur le plan, on va dire, des capacités humaines, en disant que chaque dirigeant doit toujours garder à l'esprit que l'homme qui est en face de lui a aussi ses propres limites, comme lui d'ailleurs.
Bien sûr. Alors sur le premier point, sur l'incontinence, il faut absolument remarquer que c'est un thème extrêmement fort dans la pensée aristotélicienne, un thème qui a été longtemps négligé et qui est revenu il y a quelques années dans la philosophie américaine, probablement parce que des philosophes américains ont été confrontés à des étudiants ou à des collègues ou à des amis qui se droguaient. Ils se sont demandé, mais comment peut-on faire quelque chose qui va à l'encontre du bon sens ? On peut d'ailleurs, quand on est autour de soi, on voit des gens fumer alors qu'on sait tous que c'est mortel. On peut s'interroger. Et il y a là toute une réflexion sur ces comportements qui sont effectivement irrationnels et qui cependant font partie de notre quotidien et on ne peut pas négliger. Nous ne sommes pas des machines. Si nous étions des machines ou des programmes informatiques, ce serait beaucoup plus facile, peut-être. Mais ça n'est pas le cas. Donc là, il y a une épaisseur de l'individu qui fait qu'on peut se comporter de manière irrationnelle, là même où on aimerait ou on voudrait être rationnel.
Et c'est ce qui fait toute la noblesse du management.
Tout à fait. Ce qui fait aussi, si vous voulez, que cela explique certains comportements contradictoires ou disons plutôt contradictoires, certains comportements inattendus. Moi, j'étais très très frappé, je ne sais pas si vous l'avez été également, des sondages réalisés à l'occasion, non pas des dernières élections présidentielles, mais des élections précédentes, qui montraient qu'un pourcentage, mais très important, significatif, de cadres supérieurs, allait voter à l'extrême gauche.
Ah oui, c'est un excellent exemple.
Hein, il y avait une trentaine de pourcents, je crois, de cadres supérieurs. Bon, a priori, on se dit, ces gens-là, ils vont voter à droite ou au centre, mais ils ne vont pas voter à l'extrême gauche. Bon, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup, jusqu'à ce que je vois, alors je vais vous le raconter parce que c'était Aristote a éclairé ça, jusqu'à ce que je vois un film réalisé par des militants écologistes qui s'en prenaient au patron de BP. Et ces militants sont des Britanniques, ils font à la manière britannique, c'est toujours extrêmement sage et bien élevé. Ils allaient s'installer sur la pelouse de la splendide propriété de ce dirigeant de BP, dimanche après-midi avec quelques calicots. Et on voit, c'est un dimanche britannique, vous savez, où la pluie menace, et on voit le dirigeant sortir, demander qu'est-ce qui se passe. Et puis sa femme sort et me dit, écoutez, là, je vais vous offrir du thé, dit l'épouse. Et s'installe une conversation d'où il ressort que le patron de BP, cette entreprise qui, sur le plan écologique, n'est pas la référence, découvrir qu'il est de leur avis qu'effectivement, il faut se préoccuper de ces questions. Et alors, on voit bien, à travers tout l'échange, qu'il y a deux hommes en un. Il y a le chef d'entreprise pour lequel, évidemment, l'écologie n'a aucun sens. Et puis, il y a le citoyen, l'individu, pour lequel ça a du sens. Et j'en reviens à ces élections, je me suis demandé si beaucoup de ces cadres dirigeants ou cadres supérieurs qui disaient, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais enfin qui disaient en tout cas qu'ils allaient voter à gauche ou à l'extrême gauche en tout cas, ne le faisaient pas en mettant en permanence en balance leurs obligations professionnelles qui leur imposent de faire un certain nombre de choses que l'individu privé qu'ils sont va éventuellement condamner. Et si votant comme ils le font, comme ils menacent de le faire, ou comme ils promettent de le faire, ils n'envoient pas des signaux indiquant « mettez-nous des contraintes, mettez-nous des barrières pour que nous soyons forcés de nous comporter de manière...
C'est une façon de se donner bonne conscience, en quelque sorte, inconsciente de se donner bonne conscience.
C'est Ulysse qui demande à ses marins de l'attacher au mât pour ne pas céder aux sirènes. Bon, c'est un petit peu ça, si vous voulez.
Voilà, donc vous trouverez, alors on ne va pas tout dévoiler, ces leçons tirées donc de l'analyse de la philosophie d'Aristote, dans ce merveilleux ouvrage qui vient donc de paraître chez Laurent Duménil, Maxima, Aristote, leçon pour redonner du sens à l'entreprise et au travail, 263 pages, 18,50 €, et les dirigeants y trouveront des éléments sur le chemin de la vertu.
Même d'une vertu du management.
Une vertu qui n'est pas innée, qui s'apprend auprès des dirigeants qui eux-mêmes la possède par l'expérience de la prise en compte des faiblesses humaines. Elle n'est en rien, par contre, exclusive du talent et de la compétence. Je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage remarquable. Et Bernard Girard, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci encore à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.